le quart d'heure en juin. Votre rendez-vous des musiques de l'Anjou. Le samedi de 14h à 15h.
De rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices, ce verre jamais bu. S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices, ce mot jamais dit. Demain sera l'immense par des grâces, des uppercuts.
Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
J'ai cru rater, mais cette mauvaise pierre fut un beau silex, un joyau sirim, sirim.
Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
Poussière du Sahel que viennent jeter des œufs sur l'Europe, les frontières se déchiquettent, des messages arrivent télépathes.
Agedalu, Amandie, Amanjo, Afandiele. Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices, ce verre jamais bu, le ciel se couvre d'îles.
Agedalu amandie, amanjo afandiele. Amasanjo, amanjo, mandiego. Amasanjo, amanjo, mandiego. Agedalu amandie.
Amasanjo, Amanjo, Mandiego. Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
Bonjour Denis Péan.
Bonjour.
Bienvenue dans le studio de Radio G. Nous venons d'entendre Mandiego, le titre qui ouvre votre nouvel album Feuilles Fauves. À l'écoute, vous posez le décor. J'ai l'impression que dans ce titre, dans sa composition, dans sa structure, vous nous dites, vous écoutez un album de l'audio, c'est bien nous. Et d'ailleurs, pour que les choses soient claires, les sœurs El Mourid chantent dès la 32e seconde. Quand on propose un nouvel album, il faut rassurer le public.
Non, je n'ai personne à rassurer. On choisit un début à quelque chose. Une fin, un milieu. Celui-ci a été choisi. Mais moi, j'ai eu des impressions en l'écoutant, puisque je l'ai écouté avec vous. J'ai l'impression de quelqu'un qui regarde par sa fenêtre, qui regarde le monde passer devant sa fenêtre. Et j'aime bien, c'est un choix des producteurs, des réalisateurs artistiques de ce disque, ce piano désaccordé. Là, c'est la sourdine qui donne ce côté de cabaret, de fin, de nuit.
Effectivement, oui, ça ouvre... Ça ouvre sur un paysage et cet album en réserve beaucoup des paysages. Premier titre, donc pour moi, le sentiment que j'ai eu en l'écoutant la première fois, c'est effectivement ce sentiment-là d'être en pays de connaissance, de me dire « je suis bien dans, dans cet endroit-là ». Mais il y a le deuxième titre, et là le ton change, vous nous offrez une valse. Ça vient d'où l'idée d'une valse, même si le morceau s'appelle d'ailleurs « Valse étrange ».
C'est jamais une idée, la musique pour moi en tout cas, c'est les mains sur le piano.
Oui.
Moi que ce soit l'idée des mains.
Ah, vous avez des mains intelligentes alors.
En tout cas, voilà ce qu'elles ont produit. Et cette valse étrange, elle m'est venue en parlant avec l'accordeur de mon piano. Avec tous les accordeurs de piano sont des gens très cultivés en musique, la plupart du temps. Pas simplement pianistiquement, mais musicalement. Et on a parlé de Chopin. Mmh. Puis je me disais, tiens, Chopin, quand même, il a résumé dans ses valses toutes les valses à venir, en fin de compte. Et après, je me suis repris, je me suis dit, oui, mais ce monsieur, il a pas inventé, il a puisé dans le patrimoine populaire du monde, et notamment de sa région, puisqu'il est polonais. Mmh. Mmh. Donc c'est plein d'histoires, une chanson, en fin de compte.
Alors, puisqu'on parle de valses étranges, vous dites, c'est mes mains qui ont raconté une histoire, c'est mes mains qui se sont posées sur le clavier, c'est mes mains qui se sont souvenues de Chopin. Sur Valse étrange, il y a un texte. Le texte, il est venu en même temps que les mains se posaient sur le clavier, ou le texte existait, et finalement, il a trouvé à habiter dans cette musique-là.
Non, il y a deux choses. Je suis double, sûrement. Celui qui fait de la musique et celui qui écrit des paroles. C'est à peu près le même qui chante. J'écris des textes qui ne sont jamais des chansons. Et au moment de chanter, je vais puiser dans mon tiroir, dans ma réserve. Je mets la feuille devant le piano. Je chuchote, je bredouille, je chantonne, je scande quelque chose et le texte, il tient ou il tient pas. Et souvent, il y en a la moitié qui tombe, qui n'arrive pas à s'agripper au motif musical. Et il y en a une partie qui se tient fièrement, qui veut tenir dans cette chanson. Il dit oui, je suis de cette chanson, alors je le garde. Ces phrases, on dit vraiment oui.
Ça veut dire que c'est le texte qui doit céder devant la musique?
Pas vraiment, parce qu'il arrive aussi que je contraigne la musique.
Ah oui,
une fois que le texte est fait, je peux faire rejoindre la musique au texte. Mmh. Après, au bout d'un moment, une fois que les deux sont faits de leur côté, elles vont s'agencer de l'une l'autre, se complémenter.
Déjà, on entend quelque chose. On entend qu'à l'origine, il y a des textes, il y a de la musique, mais quand on est au stade de la mise en forme, la musique, c'est vous, ou alors c'est tous les invités musiciens que vous avez qui chacun apporte un peu sa touche, ses propositions.
Déjà, les premiers invités, c'est le groupe. Alors, il y a des chansons qui sont faites par le groupe, tout simplement, sans moi.
Comment ça, sans vous?
Dans cet album, oui. Nadia Yamina, on fait la colère. Moi, je suis intervenu
en
deuxième main. Voilà, j'ai ajusté quelques paroles. J'ai donné mon idée sur le rythme du chant principal, sur la construction. Et donc, une fois que moi, j'ai fait mes chansons, je les soumets au groupe qui faire résonner des nécessités ou des surplus qu'il faudra enlever. Un groupe, c'est beaucoup de jugement, de critique, d'encouragement aussi, à contrario, et de positionnement de chacun pour dire que ça devrait être plus long, plus petit, que ça devrait être plutôt mineur là que majeur ici. Et c'est la vie d'un groupe, de débattre. Mm-hmm. Donc c'est un débat. Ce disque, comme tous les nôtres, c'est un immense débat.
C'est un débat perpétuel. Et malgré tout, il faut trancher. À un moment donné, il faut se dire, c'est plutôt ça que ça. Et c'est le groupe qui tranche aussi, où il y a Denis Péan qui dit, non, quand même, moi, je préfère ça.
Non, c'est une assez saine anarchie. À 5, ça reste possible. À 5, plus parce qu'il y a l'ingénieur du son, parce qu'il y a les managers qui s'en mêlent aussi. Tout le monde s'en mêle, en fin de compte. L'ami, la copine de l'un ou de l'autre, qui a écouté, qui a dit que. Voilà, tout ça, ça vient à nous. C'est tranché, dans certains cas, par quelqu'un qui s'appelle le réalisateur. C'est celui qu'on fait venir pour produire artistiquement le disque. Il y en a eu un sur tous nos albums. Mmh. Il a souvent été courageux de s'attaquer à nos scléroses, à nos blocages, à nos fautes. Et il a été quelquefois très amoureux de ce qu'on lui proposait. Mais il doit trancher, lui. Il tranche.
C'est Clément Petit, le réalisateur de cet album.
Oui, c'est exactement deux personnes. Alex Finkin, qui a été preneur de son, et oui. Puis Clément Petit, qui a induit le ton général de l'album, la direction qu'on pouvait prendre, qu'on a adoptée.
Et ça s'entend. Parce que quand on écoute cet album en continu, il y a une extrême diversité, mais il y a une grande cohérence. Il y a une matière qui est extrêmement cohérente et qui est, à mes yeux, jouissive musicalement. C'est-à-dire que moi, auditeur, j'ai l'opportunité de m'épanouir dans la musique que vous avez produite. Et je pense que ça vient du son qui a été produit sur cet album-là.
Absolument, absolument. Ce ne sont que des choix. Il y en a des multitudes pour arriver là.
Et ça a été enregistré dans quel studio ?
On l'a commencé nous-mêmes, on a gardé des choses dans notre propre studio local de répétition avec du matériel amené par notre ingénieur du son et qui découvre avec nous les premières chansons, qui expérimente avec nous. Et puis il arrive qu'on garde des choses après que le réalisateur pense qu'on ne peut pas les faire mieux. Qu'elles ont le cachet du moment dans lequel elles ont été faites. Éventuellement, elles sont le fruit d'une imperfection, d'un accident qu'on ne peut pas retrouver mieux. Voilà, et puis après on l'a enregistré dans un studio qui s'appelle Minimal Studio à Paris, quartier d'Alésia, très agréable, un petit studio mais bien équipé avec un ingénieur attentionné, avec une oreille très
affûtée.
Douce et exigeante. Voilà, donc tout ça c'est le fruit de beaucoup de travail, beaucoup de prise de position et d'engagement de chacun.
Et au final, vous, Denis Péan, vous vous y retrouvez complètement ? C'est-à-dire que tous ces choix qui ont été opérés, chacun à un niveau, chacun par une personne, le résultat, vous vous l'appropriez complètement ?
Oui, ben j'orchestre les choix, en fait.
Je
suis entre le groupe et les réalisateurs et les desiderata de tout le monde, hein, de la manageuse, de celui qui va faire tourner le groupe. Il y a tout un tas d'idées. Tout le monde voudrait dire quelque chose. Moi, j'essaie d'orchestrer les contradictions. C'est mon rôle. C'est pas toujours pratique. Mais en fait, c'est assez excitant. Puis, c'est un rôle, on va dire, politique, à notre degré. Qui est intéressant.
Dans votre petite anarchie, il y a quand même de la politique. Et ça s'exerce.
Il y en a. C'est du choix. C'est de l'écoute. C'est des décisions pas toujours pratiques. Ce réalisateur nous a bousculés.
Il nous a bousculés. C'est-à-dire qu'il a... Il a remis en cause vos certitudes ou des choses qui étaient acquises ?
Tout à fait. Je ne peux pas vous dire le détail, mais il a remis en question des choses fortes.
Il me semble que c'est intéressant dans la production artistique, dans la production d'un album, cette personne qui a une âme, qui a une personnalité, et qui lui écoute, pas comme ceux qui fabriquent, mais qui écoute lui avec son cœur et avec son âme, et qui agit aussi sur le résultat.
C'est-à-dire qu'il y a un niveau où on ne se voit pas, on ne s'écoute pas, parce que l'ego trouble, voile les relations induites dans un groupe qui sont faites de compromis, mais lui, il en a moins. Et ce n'est pas quelqu'un qui va faire un compromis, c'est quelqu'un qui va sortir de compromis. C'est là où son rôle, il est puissant s'il l'assume.
Un album de l'audio sans invité, ça se peut pas. Et ce sont toujours des invités, c'est quand même la classe. Hein. Dans les précédents albums, on a pu entendre Robert Plant, Tina Riwen, Eric Truffaz, Archie Shepp. Dans Transe de papier, c'était Tony Allen et Robert Wyatt. Ces collaborations, comment elles se nouent ? Comment, à un moment donné, on dit à Tony Allen, Robert Wyatt, Eric Truffaz de venir dans faire la fête avec vous ?
Oui, alors là, je vais plutôt parler de ceux qui sont invités sur celui-là.
Oui, j'allais y venir parce que. Alors, on va parler justement de ceux qui sont sur celui-là. Et il y en a quelques-uns quand même. Alors, Est-ce qu'on est obligé de commencer par Mélissa Lavo?
Non, on est obligé de rien, mais on peut, oui.
Alors on commence par Mélissa Lavo.
Ça m'intéresse.
Mélissa Lavo qui est là, qui vient sur cet album, qui vient donner sa voix et qui chante pas?
Non, en fait, je connaissais très peu Mélissa Lavo, à vrai dire, je vous l'avoue. Mais j'ai regardé un film de Jean-Pierre Thorne, réalisateur français très peu connu.
Un magnifique documentariste.
Grand témoin du mouvement ouvrier des années 60, 70, avec sa caméra. Oui. Sublime témoin, mais filmeur. Des débuts du hip-hop en France aussi.
Aussi, oui.
Grand témoin cinématographique de cette époque.
J'ai vu ses films. Hein.
Ouais. Oui. Oui, je vois que vous connaissez. Non, mais il y a quand même des gens qui connaissent tant, heureusement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fin de compte. Oui. Même dans les médias, je vois peu qui connaissent. Et donc, j'ai aimé un de ses films, un de ses derniers films, L'âcre parfum des immortels, qui retrace sa vie, en fait. Et il y a une voix off, pour une raison que ceux qui regarderont le film comprendront tout à fait. Et il y a une voix enfantine, pétillante, c'est croustillante aussi. C'est la voix de Mélissa Lavo. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et je me suis dit, j'aimerais bien. Ça me faisait aussi un lien avec Jean-Pierre Thorne, que je ne connais pas, par ailleurs, à ses films et aux histoires qu'il raconte, que j'aime. Son ton. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que j'ai invité Mélissa Lavo.
Alors, je dis, elle ne chante pas parce que, en fait, elle dit. J'allais dire, elle spoken word. Non, elle ne spoken word pas. Elle dit.
Elle dit parce que c'est pour ça que je l'ai sollicité, mais qu'elle était d'accord. Et d'ailleurs, elle a gardé mon texte au masculin. J'étais beau arrivant dans les villes. Ça ne lui posait aucun problème. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt juste de le faire comme ça, d'ailleurs. Oui. Je ne sais pas préoccupé de cette question de genre. Voilà, elle était extrêmement habile, hein, parce qu'elle a compris la chanson très vite au studio. Elle ne l'avait quasiment pas écoutée ou pas étudiée. Puis elle a fini par chanter. Hein. Il y a des petites touches, des petites colorations. Il y a des vagues quand même de trois
ça surgit
sons à qu'elle a superposés, qui forment un chœur et qui sont très beaux.
Alors, le texte qu'elle dit s'intitule « Julie ». Mais en fait, c'est une chanson qui s'appelle « Viens ». Qu'est-ce qui fait que ça change de titre alors que c'est le même texte?
Alors, je vais vous dire exactement, parce qu'une chanson, c'est plusieurs histoires. D'abord, c'était une musique qui s'est appelée « Julie », parce qu'au plein moment où j'étais en train de composer cette chanson, il y avait mon téléphone sur mon piano, je reçois un texto, et quelqu'un que je connaissais qui s'appelait Julie venait de décéder. Et j'ai fait la deuxième partie de la chanson. Donc la chanson ne s'appelait pas Julie à ce moment-là. Elle ne s'appelait pas. Et j'ai composé la deuxième partie, le B de la chanson. Et je l'ai appelée Julie. Donc elle est toujours restée, ce prénom-là. Mais après, il se trouve qu'elle a servi de tapis pour rechanter, redire une chanson déjà évoquée dans le disque qui s'appelle Viens. Le même texte, mais pas chanté par moi, parlé par Mélissa. Donc, est-ce qu'il y a deux histoires dans cette chanson, sinon plus?
Alors, c'est un... Viens, c'est le premier disque que... Le premier titre que j'ai entendu, c'est le premier qui est sorti, hein, qui a été mis en ligne, que j'ai entendu, et qu'on entendra tout à la fin de l'émission, parce que je ne vous laisse pas de choix, c'est celui-là que moi j'ai envie d'écouter pour conclure cette émission. Mélissa Lavo, donc, c'est une des invitées. Et puis, alors, j'ai entendu quelqu'un que je ne connaissais pas, c'est Jupiter, de Jupiter et Oquès. C'est une voix dingue. La rencontre avec Jupiter. Alors d'abord, dites-nous qui est Jupiter.
C'est un chanteur congolais qui est un homme de la bouteille. Hein,
ça s'entend.
C'est un espèce de sage un peu sorcier, un peu fantasque, assez provocant, très philosophe, très intelligent, très très cultivé. Et qui a le caractère de son pays aussi, turbulent.
Oui. Hein,
le caractère du Congo. Et donc, ce monsieur devait venir chez moi il y a plusieurs années pour faire une résidence, quand nous étions avec l'autre joie Mureirigné. Mais il y avait des travaux dans la maison, il n'avait pu venir. Rendez-vous raté. Bon, d'accord. Un jour, nous sommes au festival de jazz de Montréal avec l'autre joie, mais on le voit sur scène, avec le groupe, donc Oquès, ses compères. Et ce personnage fantastique, sorcier, avec ses grands bras qui gesticulent d'une façon presque punk, et puis ses incantations un petit peu d'une autorité, comment dire, lumineuse sur scène, assez impressionnant. Et puis il se trouve que notre manageuse a par ailleurs rencontré le manager et une peu maman du groupe en France, François Gouverneur. Et puis ils ont décidé ensemble, ils ont pensé ensemble qu'on pourrait s'entendre. Et ils sont venus à la maison et c'était superbe.
On l'entend sur la colère. Alors, la colère, il faut l'écrire comme il doit être, il faut l'entendre comme c'est écrit. Hein. La colère, c'est la et colère, K-O-L-E-R. Donc, la prononciation...
C'est une écriture créole.
Voilà, une écriture créole. Et puis survient, là aussi, alors, vient, dans vient, c'est lui qui dit le dernier mot. Devient, et ce dernier mot prononcé dans un souffle puissant, enfin voilà, les auditeurs écouteront, mais c'est vraiment, moi j'ai découvert, j'ai commencé à chercher parce que je me suis dit, c'est pas possible quoi, que moi je ne connaisse pas, d'ailleurs c'est pas normal que je connaisse pas ça, donc vous m'avez fait découvrir Jupiter, et vraiment c'est un vrai cadeau. Sur cet album, il y a aussi René Lacaille.
Oui, René, alors...
Le papa, on dit le papa d'Oriane.
Et de Marco, oui.
Voilà, c'est Oriane qui a pour père René Lacaille.
Mais voilà, donc René c'est une personne, mais c'est aussi le réceptacle de toute une histoire, c'est celle d'une île, l'île de la Réunion, et une histoire de musique. Mmh.
78 ans. Hein.
Oui, mais déjà, ça fait 70 ans de carrière, puisqu'il a commencé à jouer dans les balles avec son père à l'âge de 8 ans. D'accord. Au début, on l'a sollicité pour faire des percussions, parce que j'adore sa façon de jouer des percussions. Et puis, assidueusement, on lui a fait quand même prendre son accordéon.
Bah oui.
Et pour une partie que je trouve sublime, justement parce qu'elle n'est pas créolisée, je l'ai empêché, à vrai dire, elle est presque forcée, elle n'est pas allée chercher la couleur du
pays. Quelle bonne idée.
Mais de le faire jouer d'une main, parce que sinon ça swingait trop, à mon avis, ça groove trop. J'avais pas envie de ça. Et pour cette chanson, hein, pour soutenir cette chanson qui s'appelle Le Temps.
Le Temps.
Et l'après-midi, avec René, on avait évoqué les partitas de Bach. Et comme je ne trouvais pas la solution pour lui exprimer ce que j'entendais, je lui dis, René, rappelle-toi, on a parlé des partitas cet après-midi. Voilà, c'est ça que j'en... Et là, il a fait... ce sublime mouvement d'accordéon extrêmement sobre, mais qui quand même arrive à swinguer.
Oui.
Parce que même dans la sobriété, il arrive à donner le mouvement. Il a fait cette chose extrêmement simple et qui est le motif principal et beau de Le Temps.
Moi j'ai écouté Le Temps et j'ai entendu cette partie d'accordéon, alors qui, dans la mise en place musicale, un peu en arrière, donc elle est discrète, donc il faut aller la chercher, il faut faire l'effort de l'écouter, mais ce souffle d'accordéon qui revient de manière rythmique, je trouve, alors j'ai été surpris parce que pour moi ça pouvait pas être Lacaille. Je pensais à d'autres accordéonistes contemporains qui produisent des sons de cette nature-là. Quand j'ai vu que c'était René Lacaille qui produisait alors ce son-là, qui n'est pas du tout un son exotique dont il nous a habitués, j'étais sidéré. J'ai écouté plusieurs fois cette chanson sans savoir que c'était René Lacaille, juste pour entendre l'accordéon, simplement pour ça.
Mmh. Ça veut dire que c'est un grand musicien.
Ah ouais.
Pour faire ça.
Je pense que... Ouais, je crois que c'est un grand musicien. On va faire une pause musicale, et puis on va changer de climat, parce qu'on va écouter Brother Barrett.
Brother Barrett, Brother Barrett, Brother Barrett, no sorrow.
Bisoto kanisio, bango bako ganga. kabatrasi te nakati oyo batbayandaka yo ekombo na yo etikali seko na seko mpona biso Brother Barrett.
Brother Barrett, alors vous êtes toujours sur Radio G, c'est l'émission du quart d'heure angevin, et puis aujourd'hui, ben, l'invité c'est Denis Péan du groupe L'Audio, et on regrette toujours d'ailleurs que le groupe L'Audio ne soit pas là entièrement dans le studio, parce que c'est quand même un groupe magique. On parle du dernier album de L'Audio qui s'appelle Feuille fauve, j'allais me tromper à nouveau sur le titre, donc là je le dis calmement, Feuille fauve. On vient d'écouter Brother Barrett. Alors avant d'écouter Brother Barrett, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de Mélissa Lavaux, on a parlé de Jupiter et Oquest, on a parlé de l'immense René Lacaille, mais Brother Barrett, c'est un titre très étrange, presque pas de L'Audio. Dans sa structure, dans sa musicalité. Là aussi, les mains se sont posées sur le piano ?
Oui, d'abord, c'était une composition pianistique avec des espèces de dissensions harmoniques un petit peu tordues. Puis quand on a fait venir le groupe Jupiter Oquest, j'ai choisi cette chanson parce que je me suis dit que ça allait les mettre dans un terrain particulier. Je n'allais pas de toute façon leur faire une proposition africaine. Hein. Moi déjà, je suis très impressionné par les musiciens africains en général. Ça un petit peu, j'étais assez inquiet de leur venue, en fait, et de quoi leur proposer. J'aurais proposé ça parce que c'était harmonique, puis inédit pour eux. Et là, il y a eu un petit suspens. J'ai douté que ça pouvait leur plaire ou qu'ils trouvent quelque chose à faire, tout simplement. Et là, le bassiste s'est déclaré, Yende, et il a déclamé ce chant. Bako loba loba, bisoto kani si yo. Bango Bako Ganga. Voilà. Donc, il a déclamé ça avec une puissance et on a gardé ce cœur. Donc, ça, c'est le bassiste du groupe Oquest. Et il se trouve aussi que j'étais très touché parce que ce jour-là, il y a le batteur qui m'est sauté dans les bras. En fait, on se connaissait, c'était le batteur du groupe Staff Benda Bilili.
Ah !
Et qu'il était tout jeune, c'était Montana dans ce groupe caractéristique, puisque c'était beaucoup des gens poliomélites, handicapés.
Oui,
voilà, et des gens de la rue, repérés par un producteur de musique belge, etc. Et c'était le jeune Montana que je retrouvais dans le groupe Quest. Donc, une autre histoire dans l'histoire.
Encore une autre histoire. Mmh. Brother Barrett, ça raconte une histoire. C'est quoi cette histoire de Brother Barrett ?
Donc, je suis ami et j'admire énormément une journaliste qui s'appelle Hélène Lee, qui est une grande spécialiste mondiale du reggae. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le Premier Rasta, sur le fondateur du mouvement Rasta et de la communauté du Pinacle en Jamaïque. Et elle cite à un moment donné, Brother Barrett, un musicien, on disait qu'il avait quatre mains, tellement il était brillant et volubile. On disait que des musiciens, des jeunes branchés de Kingstown venaient jusque dans la communauté du Pinacle pour l'écouter, mais qu'il n'a laissé aucune trace. Il n'a pas été enregistré. Alors, déjà, ça fait réfléchir sur notre époque. En fait, l'enregistrement n'est pas si récent que ça. Ça fait 100 ans qu'on enregistre. Guère plus, hein, en fait. Donc, on est déjà marqué dans une époque, en fait, sublime, dans laquelle on peut s'enregistrer. Mais pour un Jamaïcain des années 40, 50, ben non, ce n'était pas encore le cas exactement. Cet homme n'a jamais été enregistré. Je lui rends hommage. J'entends sa musique. J'essaie d'entendre sa musique.
Alors, on est effectivement... Moi, je dis qu'on n'est pas dans des sonorités de l'audio, mais ce n'est pas, pas faire affront, bien évidemment. C'est au contraire. Pour moi, c'est une extrême qualité parce que vous ouvrez encore... c'est quand même fou, ça. Vous ouvrez de nouvelles perspectives à votre groupe en proposant cet univers-là, qui est un univers, il me semble... Alors, je connais votre discographie, mais qui m'a semblé presque nouveau, d'ailleurs, hein, dans votre travail. J'ai trouvé que la texture, la matière, les voix, bien évidemment, les voix qui sont, enfin, ces voix d'incantation, enfin, de ces voix puissantes, profondes. Voilà, j'ai trouvé qu'on était dans un autre univers, mais toujours chez vous, parce que c'est le monde.
Ouais, bah on invite les gens pour qu'ils s'expriment aussi.
Oui.
Donc ils ont donné leur voix à partir de quelques accords de piano un peu tordus, inédits pour eux. Et je crois qu'ils ont été surpris aussi eux-mêmes du résultat que ça a fait. Ils ont une musique qui est beaucoup plus touffue. En général, d'ailleurs plus rock, hein, bien qu'il soit congolais, plus punk même, et plus sonore et plus mouvementé. Et je pense qu'ils ont été touchés de se retrouver avec nous qui manions la musique d'une autre façon. L'échange a été puissant.
Oui, j'imagine. Oui.
Et très, très franc.
On entend cette énergie. C'est pour ça que je dis on est un peu en dehors d'eux, mais on est quand même toujours sur chez vous, chez l'audio, parce qu'on sent cette symbiose. Et ça traverse tout l'album. Tous les invités, tous les musiciens. On a parlé de Mélissa Lavo, la manière dont elle s'est appropriée le texte, dont elle le dit. J'allais dire, elle est venue habiter chez vous, mais c'est elle qui est là.
Oui, alors ça, je ne sais pas comment elle l'a ressenti. Elle m'a dit avoir aimé le texte. C'est pour ça qu'elle a accepté, d'ailleurs.
On l'entend au travers de cette conversation que nous avons. Est-ce qu'un album de l'audio... C'est pas à chaque fois la volonté de reconstruire la tour de Babel, d'imaginer un monde dans lequel tout le monde se parle et se comprend.
Je sais pas exactement parce que il y a pas tellement de volonté. Il y a un désir ardent et quelquefois qu'il n'a pas de mots. Faire un disque, c'est lui donner des mots. Et donc c'est plutôt un sentiment qui nous submerge, qu'on a du mal à exprimer. Et qu'on va mettre en musique et en mots. Mais ce n'est pas tellement de la volonté ou de la pensée.
Mais pourtant, ce qui caractérise l'audio, c'est un nombre incroyable de pays visités. Mais ce n'est pas que des pays visités, c'est des pays dont on a habité la musique, qu'on a rapporté dans sa besace, qui fait matière aussi dans vos albums.
Oui, bah sur un piano, il y a tant de notes, et dans les timbres, il y a tant de timbres, et il se trouve qu'on les a effleurés en voyageant, ces timbres. Donc le clavier de nos possibilités de timbres, de couleurs, il est assez large, en fait.
Combien de pays vous avez visités? Est-ce que vous êtes capable de le dire?
Bon, visiter, enfin, on a joué, joué, en fait. Moi, je n'ai guère voyagé que pour jouer, une cinquantaine. Mais cinquantaine, il y en a certains dans lesquels on est allé 10 fois, 20 fois, peut-être même plus pour certains. L'île de la Réunion nous a été très familière, la Géorgie, l'Afrique de l'Ouest, l'Angleterre énormément.
Est-ce que, malgré tout, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais est-ce que quand même c'est pas l'Afrique qui reste profondément ancré dans votre cœur ?
Là, ça, c'est une histoire qui nous dépasse, en fait, parce que ce n'est pas simplement notre affaire propre, c'est l'histoire d'un pays, la France. Il est lié à l'Afrique, pour des raisons qu'on connaît, qui sont terrifiantes, en fait. C'est une histoire de viol, c'est une histoire de pillage, c'est une histoire d'abus. Et c'est quelque chose qui n'a cessé de monter, en fait, cette relation. Mmh. Je ne sais pas si je l'ai résolu en musique, mais j'en parle en musique. En tout cas, c'est mon terrain pour le comprendre, pour le saisir, peut-être pour conjurer une histoire qui fut terrible.
L'homme de l'Anjou, qui va dans le désert, qui va même animer un festival, qui va à la rencontre d'eux, mais ça va jusqu'à Jupiter. Jupiter qui est par une boucle très lointaine, mais qui revient, on revient à l'Afrique.
Oui, on y revient, parce qu'il y a cette familiarité, en l'occurrence, je dis, quasiment historique, qui fait aussi que cette histoire mortifère, elle nous a donné un langage commun, c'est un peu le revers des choses. Jupiter parle français, bien qu'il chante en lingala sur l'album, il parle français. Et voilà notre lien avec certaines personnes qui ont été abusées par nos ancêtres. C'est quelque chose d'inouï, c'est une langue en commun.
Par nos ancêtres et des ancêtres pas si lointains. Hein.
Non, pas lointains.
C'est une histoire moderne, hein, l'histoire de la France et de l'Afrique.
Hein. Oui, et certains continuent à revendiquer d'ailleurs que ça aurait été bien et que ce sera même bon de continuer et que c'est très dommageable d'avoir lâché cette emprise et ce viol permanent. Mais bon, voilà. Je suis ailleurs.
Ça s'entend depuis longtemps. Hein. On entend ces sonorités depuis longtemps et on sait que ce n'est pas de l'exotisme. On sait que c'est autre chose qui se dit dans votre musique quand vous fabriquez ces sonorités qui ont des consonances qui viennent, entre autres, de l'Afrique. On entend bien qu'on n'est pas dans le joli, on n'est pas dans le beau, on est dans le politique. Ça reste dans le politique. Et c'est le moment de faire une pause musicale.
Something strange happened here. Something strange. Something strange.
Rien n'incline. Le temps, son chant, il a du vent, l'élégance des fleurs d'un jour, celles qu'on cueille. Des mots qu'on attelle à l'émoi, à la fièvre. J'ai dit ces ombres, j'ai dit ces paradoxes, j'ai dit à demi-mot, j'ai dit sa fêlure, plénitude. Rien n'incline le mouvement.
Ailleurs d'un bâton, Toko a pris sa panaléjo, panaléjo.
Rien n'incline le temps. Il boit son satin, il porte une couronne de bémol tressé, une canne d'aveugle, une boule de cristal. Le temps qui mendie sous le porche pour quelques pépins de mandarine. Something's décline le temps. J'ai dit ces nombres, j'ai dit ces équivoques, j'ai dit sa blessure, mansuétude. Rien n'incline le mouvement.
On avait parlé dans la première partie de cette conversation de l'accordéon magique de René Lacaille, et ça aurait été dommage de ne pas l'entendre. C'était Le Temps, un des titres du nouvel album de l'audio Feuille Fauve. Vous écoutez Radio G sur la fréquence 101.5, c'est le quart d'heure angevin. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale autour du nouvel album de l'audio Feuille Fauve, et je vous invite à retrouver Denis Péan, l'âme du groupe. L'audio, c'est un groupe, j'allais dire, c'est une marque. Mais l'audio, c'est un groupe. C'est un groupe qui se reconfigure, voilà, au gré des rencontres, j'imagine. Mais il y a Richard Bourreau. Richard Bourreau qui est depuis le début de l'aventure, qui est toujours là. Pour vous, qui il est, Richard Bourreau?
Alors déjà, pour l'auditeur, je signale qu'il y a FR3 qui, dernièrement, a mis en ligne une vidéo de l'audio de 1986.
Ah, donc très...
38 ans. Et ouais. On voit Richard qui joue le violon déjà dans l'audio. Oui. Donc Richard, c'est un compagnon de route depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est plus jeune que moi. Je l'ai rencontré quand j'ai commencé à étudier le basson au conservatoire à l'âge de 16 ans. Mais lui était déjà violoniste depuis longtemps, puisqu'il venait d'un milieu musical. Sa grand-mère était violoniste. Donc il avait déjà une approche et un apprentissage de la musique très différent du mien, puisque moi, ma famille n'était pas liée au monde de la musique. Il n'avait pas d'intérêt ni de goût pour ça.
Et alors, j'entends un truc, c'est que j'étais à milieu de penser ça, hein, enfin d'imaginer ça. Vous avez appris le basson?
Ben oui, j'ai appris le basson. J'ai eu un coup de cœur pour cet instrument. Quand j'avais 16 ans, j'ai dit « je veux faire ça » sans l'avoir entendu. Et quand je l'ai joué, c'était le son que j'avais imaginé. Et j'en ai fait jusqu'au prix de conservatoire. Et j'ai joué les concertos de Vivaldi, j'ai joué l'Ascension de Messiaen, j'ai joué en orchestre, j'ai joué concerto pour orchestre de Bartok, et j'ai joué Haydn en trio de musique de chambre.
Si vous dites « je veux jouer de cet instrument-là », le basson, c'est un des... C'est un bel instrument, c'est un très très bel instrument, c'est un instrument magnifique. Enfin, j'imagine qu'il peut faire rêver effectivement un enfant qui le voit et qui se dit eh ben, ça doit être quelque chose de jouer cet instrument-là.
Alors je n'étais pas un enfant, j'avais 16 ans, mais oui, je l'ai vu, mais il me semble que c'est l'instrument le plus méconnu. Les gens le confondent encore avec le hautbois ou le saxophone.
Non, non.
C'est un instrument. Il ouvre le sacre du printemps dans son registre extrêmement aigu. On le connaît dans le grand-père dans
Pierre et le Loup.
Pierre et le Loup. Voilà. Et 44 concertos de Vivaldi, sublime pour basson. Beaucoup utilisé dans la musique de film, très peu dans les musiques pop ou rock, dans le jazz un petit peu. Il y en a dans l'Art Ensemble de Chicago, il y en a dans un contrebasson dans un album de Miles Davis.
Ah oui.
Contrebasson, c'est encore une autre affaire, parce qu'il y a quelques notes qui sont musicales, le reste c'est très ça s'approche du bruitisme,
oui, quoi. Miles Davisien.
Ouais.
Donc, dans sa période bebop.
Il y a du contrebasson dans un album de Miles. Mais sinon, c'est quand même assez rare dans les musiques hautes. Dans l'Ojo, il y en a eu souvent, puisqu'on a un compère qui s'appelle Stéphane Coutable, qui est par ailleurs bassoniste à l'Opéra de Marseille, qui a joué souvent avec l'Ojo dans Bazar Savant, notamment, Cosmophono, Phonetic Flowers, on entend.
Alors, donc, il y a Richard Bourreau, donc le compagnon de route du début. Hein. Lui, il était là. Avant même qu'il y ait des enregistrements, Richard Bourreau, il était là et il n'a jamais dévié, il n'a jamais quitté le navire. Enfin.
Non, on est toujours restés ensemble. Mm-hmm. Il y avait un autre compère de cette époque, un contrebassiste avec lequel on avait fondé l'Ojo, qui s'appelait Richard aussi, lui qui a quitté. Mais non, avec Richard, donc c'est le lien le plus ancien, oui. Avant que n'arrive Nadia.
Nadia, oui.
Dans la fin des années 80. Jeune sœur Yamina, qui sont toujours là.
Qui sont toujours là, oui. Et vraiment qui, je pense que sans elles, il manquerait quelque chose.
Oui, c'est non seulement un son, mais c'est une âme profonde, c'est un encouragement permanent, c'était le rapport affectif avec la vie du groupe qui est moteur. Voilà, parce qu'il y a bien des choses qui ne sont pas musicales dans la vie d'un groupe ou d'une communauté. De musiciens, une grande part, c'est le sentiment qui joue. C'est la fraternité, c'est la complicité, c'est le partage des difficultés aussi, parce qu'il y en a.
Oui. Donc effectivement, voilà, une fois qu'on a cité ces noms, on a la base de l'Ojo, on a ce qu'est l'Ojo, cette âme de l'Ojo, et chacun pour ce qu'il est. On a parlé des sœurs Norine, mais on les repère beaucoup au cœur qu'elles font. Mais je recommande d'écouter vraiment attentivement l'album Feuilles Fauves parce qu'on entend leur voix, mais pas forcément comme on a l'habitude de l'entendre sur certaines chansons où elles chantent, simplement. Et voilà, ça elles vont dans un autre domaine, elles font un petit pas de côté qui nous les fait entendre un petit peu différemment. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, vous êtes à combien d'albums ?
C'est l'Ojo ? 18e.
18e. 18e, donc on est au rythme d'un peu tous les 3 ans à peu près, tous les 3 ans et demi.
Ça, oui.
Ouais, c'est ça. Hein. Alors, la richesse de Feuilles Fauves montre qu'il y a encore des possibilités à venir, hein, parce que Feuilles Fauves, c'est pas Trans de Papier, c'est pas Cinéma El Mundo, c'est pas du tout ça. Vous êtes encore, il me semble que vous avez encore ouvert de nouvelles perspectives dans l'Ojo. Enfin voilà, c'est un album en soi, à part entière, d'une extrême qualité. On a parlé de la mise en son, etc. C'est vraiment un album d'une grande qualité que moi, je dirais qu'il a un défaut, en fait, cet album, c'est qu'il est addictif. C'est-à-dire que quand on commence à se plonger dedans, on n'en finit pas de l'écouter. En fait, moi, je n'ai pas fini de l'écouter. Je l'ai écouté, et puis je me dis, ah non, il y a peut-être encore ça. Enfin, effectivement, l'accordéon de René Lacaille, Jupiter, je me dis, ah non, il faut réécouter cette voix, ce n'est pas possible. Je ne peux pas ne pas la réécouter, quoi. Donc, il est vraiment très, très addictif. Il y a 18 albums. 44 ans de carrière, c'est ça ?
Oui.
Ouais. Logiquement, avec la nouvelle législation, vous avez tous vos droits pour la retraite. Hein ? C'est toujours pas l'heure ?
Non. Sauf qu'on nous appellera pour jouer. Voilà. La question, c'est d'être appelé pour jouer. Mais pour l'instant, on a une belle tournée, quoi. On est sur la scène avant-hier encore. On y sera. La semaine prochaine.
Il y a la date au Grand Théâtre à Angers.
Absolument, hein. Absolument. C'est notre vie d'être sur scène aussi. Un disque, c'est une chose. Un concert, c'est une autre dimension, autre façon spontanée. Une seule chance à la note.
Oui.
On ne revient pas en arrière.
Oui, c'est...
On revient, on polit. Un travail de polissage que j'adore. Et de perspective sonore, d'équilibre précis. Vous parliez de Yamina Nadia, elles amènent beaucoup de percussions. Elles chantent, certes, mais elles amènent beaucoup de percussions. Les textures de percussions, ce qu'on a créé avec l'électronique, éventuellement, c'est fait à partir de leur base, de la résonance d'un tambour. d'un shaker, quelque chose comme ça.
L'album, maintenant la scène, c'est-à-dire effectivement le travail presque sans filet, l'épreuve du feu, mais qui est l'essence même d'un groupe, donc ça ne peut pas être autrement que comme ça, de toute façon. Votre musique, elle est... c'est une musique de partage, donc elle doit se donner au public, elle doit être entendue en live. Vous l'avez dit tout au début de cette rencontre, il y a le piano, les mains qui se posent sur le piano, et puis il y a des textes dans des tiroirs qui sont là, qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont devenir, mais qui sont là. Il y a encore beaucoup de textes dans les tiroirs.
J'en ai suffisamment, parce que pour faire un disque, il ne faut pas avoir écrit 3 tomes, ce n'est pas Guerre et Paix de Tolstoï. C'est des bribes, c'est des choses déjà très tamisées, il faut 10 phrases pour faire une chanson, donc j'en fais suffisamment pour l'instant, quoi. Voilà, alors il faut qu'elle soit aussi perçante, qu'elle soit chargée de l'acuité, de l'observation, voilà, mais bon, j'en ai encore. Je cherche pas à écrire absolument, j'ai pas de bureau, j'ai pas un travail permanent d'écriture consciencieux, non. Ça me traverse l'esprit.
Pourtant, il y a des publications quand même. Vous avez des recueils.
Oui, j'en ai fait. J'ai de quoi faire un livre aussi que j'aimerais bien éditer, mais pour l'instant, j'ai pas le temps de m'en préoccuper. Voilà, ça me transperce l'esprit. L'observation m'impose les mots, en fait.
Et moi, j'ai lu les textes de cet album sans musique. Donc, je les ai lus comme ça. Et je suis quand même... Je ne sais pas s'ils ont beaucoup été transformés pour les faire en chansons, mais tels qu'ils sont là, ils tiennent bien debout. Hein. Ouais, ils tiennent vraiment bien debout.
Ça, c'est votre avis.
mais je tiens. Si je le dis, c'est que ils ont la nécessité de la musique, puisque c'est un album, puisque c'est une tournée, etc., etc. Mais vous avez, enfin. Derrière ces textes, il y a une écriture. Il n'y a pas que des textes, il y a une écriture. Il y a des images, il y a des constructions et que j'ai beaucoup aimé. Voilà, l'album est sorti. Maintenant, il est disponible. La tournée. Denis Péan, moi, je suis ravi que vous ayez accepté cette rencontre. On va la terminer en écoutant, comme je l'ai dit, Viens, parce que je trouve que c'est un titre magnifique qui commence avec, je crois, 4 ou 5 notes complètement étranges, faites, j'imagine, sur un clavier qui surprennent les oreilles. Mais après, quel bonheur!
C'est un clavier tout à fait vintage, de ces claviers d'appartement avec des fonctions de répétition qui font qu'on pouvait en jouer sans savoir jouer. Voilà, et j'adore ces vieux claviers. Dans chaque album, j'en ai quasiment utilisé un pour la chanson Café des Immortels sur Phonetic Flowers, pour La Poussière du Temps dans l'album Mojo Radio, pour Pas Pareil dans l'album Transe de Papier.
Ouais.
Parce qu'à un moment donné, le groupe n'est pas là. J'ai envie d'avoir un truc facile à faire, d'appuyer un doigt sur une et de chanter. Et j'arrive toujours à faire une chanson avec ces vieux appareils que je possède, qu'on me donne, qui ne valent rien d'ailleurs.
Merci Denis Péan pour cette visite. J'ai été ravi de cette conversation avec vous et on écoute Viens.
Viens, déesse syllabe, flamme des voyelles pour des couronnements, des sacres de ficelle. Viens, pour des salutations, des tourbillons d'atomes. Estropié, j'arrivais fruit amer, messager d'une langue foudroyée. témoin des navires échoués. Je ne sais rien, je suis la rosée, le battement des rimes. J'arrivais éprouvé occitan, cavalier de mots déracinés et des patries frivoles d'Alexandrin semé. J'étais beau arrivant dans les villes, près des bistrots enflés de peine, le soir m'émeut comme j'aime les mots qui désordonnent. Salutations des tourbillons d'atomes.
C'était le quart d'heure Angevin. Rendez-vous samedi prochain à 14h.